Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Nous souhaitons porter à votre attention le fait que toutes les chansons marocaines sont désormais totalement interdites d'antenne. Les radios locales algériennes, lit-on dans Le Monde, ont reçu fin juillet cette note de la Direction Générale de la Radio Nationale, rapporte le site Free News, consacré à la liberté d'expression musicale. Un geste sans précédent, relève le journaliste Aziz Alilou du site Morocco World News, qui précise que les autorités n'ont donné aucune explication de cette décision. De son côté, le site Algérie Patriotique avance que, selon une source officielle non citée, cette interdiction est due au fait que les radios algériennes diffusaient trop de chansons marocaines, une promotion destinée à soutenir les chanteurs marocains au détriment des artistes algériens. Cela donne à penser qu'il existe une campagne pro-marocaine conduite par un organisme non défini, conclut la même source, mais de nombreux médias algériens estiment qu'il s'agit surtout d'un geste politique dû au refroidissement diplomatique actuel entre les deux pays. Le site Free News regrette qu'une fois encore, les artistes servent de bouc émissaire dans un conflit qui les dépasse. À défaut d'écouter des chansons marocaines, on peut en tout cas désormais chanter Happy Birthday sans risquer d'amende, se réjouit le Parisien. Un juge fédéral de Los Angeles a décidé que la chanson faisait partie du domaine public et qu'il n'était donc pas nécessaire de payer des droits à Warner Music pour l'utiliser dans un film ou sur un disque. Jusqu'à présent, même si nous étions nombreux à l'ignorer, Warner affirmait être propriétaire des droits depuis 1935. Happy Birthday appartient désormais à tout le monde. En revanche, on ne peut toujours pas voir Aretha Franklin chanter au cinéma. Alors que les festivaliers de Telluride et de Toronto s'excitaient à l'idée de découvrir le film d'un concert mythique déclaré perdu depuis plus de 40 ans, la Lady Soul a fait interdire les projections, nous apprend Laurent Rigoulet dans Télérama. Motif, on ne lui a pas demandé son avis, mais Aretha avance d'autres arguments qui laissent penser qu'elle fait aussi sa mauvaise tête et n'a guère envie qu'on se retourne sur son passé, si glorieux soit-il. Amazing Grace, c'est le film d'un exceptionnel récital gospel qu'elle donna dans une église de Watts, quartier noir de Los Angeles, en 1972. La chanteuse laisse entendre désormais qu'elle n'avait pas donné son accord pour la captation, voire que les caméras n'étaient pas là pour ça. On peut en douter, vu que la Warner et Atlantic avaient engagé un Sidney Pollack très en vogue pour signer la réalisation, et que Amazing Grace devait sortir couplé au film Superfly dans tous les cinémas de l'Amérique Black. Or, Sidney Pollack a malheureusement commis une erreur de débutant. Le son et l'image n'ont pas été synchronisés et malgré des centaines d'heures de montage et quelques crises de nerfs, son film a moisi dans les tiroirs jusqu'à l'entrée en piste d'un nouveau producteur et de nouvelles technologies. Aujourd'hui, la bande-annonce met l'eau à la bouche, mais on ne sait toujours pas si on verra Aretha brûler à l'écran de sa flamme divine. On ne sait toujours pas non plus qui figure sur la pochette d'Otis Blue, Otis Redding Sings Soul, à l'occasion de la réédition le 15 septembre de cet album mythique, 50 ans après sa parution. Les héritiers du chanteur et la maison de disques Rhino tentent de déterminer l'identité de la femme, lit-on dans l'Express. Selon le photographe Peter Saula, le modèle pourrait être Nico, la future chanteuse du Velvet Underground, ou bien Dagmar Dreger, la première étant décédée en 1988. Il n'y a que la seconde qui peut éclaircir ce mystère. Pour la retrouver, les internautes sont mis à contribution via une campagne lancée sur Facebook et Twitter avec le hashtag Find Dagmar. Si vous avez des infos, évidemment, n'hésitez pas. On a en revanche retrouvé les Spice Girls de Corée du Nord, nous rassure François-Xavier Gomez dans Libération. Où étaient-elles fourrées? Moranbong Band, le groupe musical le plus célèbre de Corée du Nord, ne donnait plus de signe de vie depuis une apparition télévisée début juillet. Un mois plus tard, les sites sud-coréens qui tentent de décrypter l'opaque réalité du voisin communiste commençaient à s'inquiéter. Qu'est devenu ce collectif d'une douzaine de femmes? Sont-elles tombées en disgrâce pour une fausse note ou un mot de travers? Pire, les a-t-on passées par les armes, comme plusieurs membres de l'orchestre philharmonique Un Asu en 2013? L'apparition simultanée d'un groupe féminin concurrent, Chongbang Band, confirmait les pires craintes. Et lundi, la coréosphère a poussé un ouf de soulagement. Les actualités télévisées ont à nouveau montré les dames de Moranbong Band, invitées du gala artistique offert par le leader bien-aimé Kim Jong-un à un invité de marque, le vice-président cubain Miguel Díaz-Canel. D'après les médias officiels, Moranbong Band, qui tire son nom d'un quartier de Pyongyang, a été créé en 2012 par Kim Jong-un, qui aurait choisi en personne chacune des chanteuses et musiciennes. L'objectif était de donner aux jeunes une formation moderne qui corresponde à ses aspirations. L'apparition du groupe dans le panorama musical nord-coréen avait révolutionné la jeunesse. Les robes courtes et les coupes de cheveux audacieuses avaient immédiatement été copiées. Au même moment, le coréen Psy devenait une star planétaire avec son tube Sans lendemain. lendemain, Gangnam Style. Le leader suprême a-t-il voulu riposter à cette offensive de la culture capitaliste? Moran Bang Band est pourtant très éloigné de l'esthétique electro-dance. Avec sa section de violon, le collectif privilégie la musique douce et mélodieuse qu'on entendait dans les cocktails distingués et les ascenseurs des années 60. Le répertoire marie chants patriotiques, aux patries remplies d'espoir, Pyongyang est la meilleure, nous pensons jour et nuit à notre leader, et succès pop vieillot et parfois français, oui, L'amour est bleu d'André Pop ou Les feuilles mortes de Joseph Kosma. Lundi, elles ont offert à l'hôte officiel une version de Guantanamera, et sur la vidéo que je vous conseille, c'est la folle ambiance.